François Helbron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Helbron, vous êtes professeur associé à Sciences Po et nous allons revenir avec vous sur les émeutes qui ont éclaté en France après la mort de Naël par un policier la semaine dernière lors d'un contrôle routier. Si l'on peut entendre la colère suscitée par ce décès, on comprend beaucoup moins bien en quoi brûler des écoles, des mairies, s'en prendre aux maires et à leurs familles, brûler des bus et piller des magasins s'inscrivent dans cette colère. Que révèle, selon vous, cette violence de la part de ces jeunes qui la commettent, mais aussi cette violence latente dans notre société qui n'attend qu'un prétexte pour exploser?
C'est une très bonne question et complexe. Il y avait un très beau livre qui a été écrit par une grande géopolitologue que vous avez sûrement connue, Thérèse Delpech, qui est disparue, hélas. Et elle avait publié ce livre en 2005. Ça s'appelait « L'ensauvagement du monde, la barbarie au XXIe siècle ». Et c'est un très beau livre sur les grandes tendances de fond où on pouvait penser qu'après l'immense barbarie du XXe siècle qui nous a donné le nazisme, le stalinisme et le maoïsme, trois idéologies criminelles au XXIe siècle, dans une période de modernité et d'évolution, la barbarie baisse. Elle a tendance à progresser. Un exemple récent, c'est la guerre en Europe, la guerre à nos frontières, la guerre tout proche de chez nous, en Ukraine, une invasion russe d'une violence extrême. On estime qu'il y a à peu près 200 000 morts russes de cette guerre, un peu plus de 100 000 morts ukrainiens, et c'est à quelques heures d'avion de Paris. Alors pour revenir à la France et aux émeutes que vous évoquez, il y a dans la société française et plus particulièrement chez les jeunes, une montée de ce qu'on appelle l'ensauvagement. Et d'ailleurs, ce terme a été utilisé par le président Macron et aussi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est un ensauvagement, c'est-à-dire une montée de la violence sauvage de la part des jeunes. Alors, c'est une tendance longue. Si on regarde, moi j'aime bien regarder les choses plus longues que commenter purement à brûle pour point l'actualité brûlante, comme elle a été ces derniers jours. Si on regarde le taux d'homicidité, c'est mesuré par le criminologue Alain Bauer et qui recense depuis 1972 les faits les plus graves. Les faits les plus graves, c'est homicide, tentative d'homicide, règlement de compte entre malfaiteurs et coups ayant entraîné la mort. Et en fait, si ce taux d'homicidité était de 1867 en 2010, il est de 4472 en 2020, c'est-à-dire qu'il a pratiquement triplé. Et donc, il y a une violence latente dans notre société qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, des tensions sociales très fortes, une acculturation de plus en plus grande, un système éducatif qui répond de moins en moins à certains besoins, un manque d'encadrement de la jeunesse, aussi un manque de répressivité du système judiciaire. Et ça, c'est un phénomène qu'on a depuis très longue date. On le dit depuis des décennies, il n'y a pas assez de place de prison. On le disait déjà il y a 20 ans, chaque gouvernement, quel qu'il soit, de droite ou de gauche ou de centre, nous a promis des places de prison supplémentaires. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de places de prison qu'il y a 20 ans, ce qui fait que beaucoup de petites peines sur des petits délinquants ne sont pas exécutées, ou quand elles sont exécutées, on envoie ces petits délinquants dans des prisons avec des grands délinquants et ils deviennent encore plus violents. Et il n'y a pas de prise en charge à la fois judiciaire et psychologique de cette violence de jeunes, et là on l'a vu d'ailleurs, pour les 3000 jeunes qui ont été arrêtés, beaucoup sont condamnés à de la prison ferme. On ne sait pas très bien comment on va les mettre, on ne sait pas très bien comment on va les punir, on ne sait pas très bien comment on va les encadrer. Donc l'ensauvagement est un phénomène profond dans la jeunesse, avec de multiples causes sociales, raciales, ethniques, religieuses, ou tout simplement, elles ont été accentuées aussi par les phénomènes du Covid et une jeunesse qui a été tenue confinés en marge de la société. Et donc, c'est une vraie réflexion sociétale qu'on doit avoir, aussi une vraie réflexion judiciaire qu'on doit avoir. C'est à la fois, comme toujours, de l'éducation et de la répression dont on a besoin.
Alors, François Helbron, je vous ai bien écouté, mais force est de constater que depuis plusieurs années, on voit de plus en plus une opposition systématique à toute décision politique. Et on peut avoir cette triste impression que voter pour un responsable politique ou un programme politique n'est qu'une étape pour ensuite s'opposer à ce vote.
Tout à fait. En fait, il y a une crise profonde de la démocratie et de la représentativité démocratique. Ce n'est pas propre à la France, hein. C'est propre à de nombreux pays. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on le voit en Israël, un pays qu'on connaît bien, vous comme moi, comme beaucoup de nos auditeurs. C'est un vrai problème de fond. Il y a plusieurs causes, hein. Elles sont assez bien analysées. Il y a d'abord le fait que les décisions sont de plus en plus complexes, sont plus difficiles à prendre, les systèmes de consensus sont plus durs à avoir. Avant, l'information était quand même assez cadenassée et verrouillée, même dans des démocraties. Maintenant, l'information est plus ouverte. Il y a le rôle des réseaux sociaux qui est très important, qu'il ne faut pas négliger, où les forces d'opposition et les forces d'opposition les plus extrêmes ont des voies d'expression qu'elles n'avaient pas avant. Il y a une montée des extrêmes, on le voit très bien en France, avec d'un côté la montée de l'extrême droite, qui n'a jamais été aussi haute dans notre pays. Il y a un dernier sondage dans le journal du dimanche, je crois, avant qu'il cesse de paraître, où on montrait que les intentions de vote aux européennes, il y avait entre le Rassemblement national, le parti d'Éric Zemmour et Philippe de Villiers, l'extrême droite pouvait monter à 35%. Donc 35% de gens qui sont prêts à voter pour des partis politiques qui remettent en cause un certain nombre de nos valeurs démocratiques et républicaines. Et de l'autre côté du spectre, l'extrême gauche, bon, la France insoumise a heureusement un peu baissé, les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon devraient favoriser ça, mais on est quand même autour de 10-12%, c'est-à-dire que même parmi ceux qui votent, et l'abstention est de plus en plus forte, un Français sur deux est prêt à voter pour des partis qui s'opposent au système démocratique de base, soit révolutionnaire à l'extrême gauche, soit populiste, nationaliste, réactionnaire à l'extrême droite. Et donc ça prouve qu'il y a une désaffection du politique et une tentation pour les partis extrêmes qui est de plus en plus forte. Et les vagues populistes qui submergent de plus en plus l'Europe, on l'a vu récemment en Allemagne avec l'extrême droite qui revient en force comme elle n'a jamais été en force, en Suède où le pays a basculé, en Angleterre qui les a conduits au Brexit et à cette erreur monumentale, et puis aux États-Unis avec la possibilité que Trump puisse revenir. Et clairement, c'est aujourd'hui le candidat républicain le plus en vue et le plus apte à se présenter et à gagner une présidentielle.
Si la contestation et la violence sont devenues aujourd'hui, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, le nouveau système politique, que les grands partis de gouvernement ont disparu, pour aller dans ce que vous venez de nous dire, la conséquence prochaine pourrait être donc la volonté du rétablissement de l'ordre par les Français, au prix de bien des libertés individuelles et collectives supprimées, notamment avec les partis extrêmes. Est-ce que c'est un risque réel ou c'est toujours cet épouvantail qu'on agite quand la situation va mal ?
Ah non, vous avez tout à fait raison, c'est une réalité qui avance, et là, justement, les chiffres que je vous indiquais, que l'extrême droite soit à 35% cumulé dans les intentions de vote pour les européennes, c'est du jamais vu. C'est en fait le premier mouvement politique français, de loin. Le deuxième est un mouvement politique qui n'a pas vraiment de tradition et d'ancrage politique historique en France. C'est le macronisme avec Renaissance qui est à 24%, et des partis historiquement de gouvernement, qui étaient les Républicains, ils sont à 8-9%, et le Parti Socialiste est à 8%. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement des partis de gouvernement classiques. Le parti attrape tout, mais qui tient, grâce à Emmanuel Macron, Renaissance est à 24%. Mais c'est un parti qui se dissoudra. Mais même si on rajoute les Républicains plus les Socialistes plus Renaissance, on est à peine à 40%. Donc il y a une tentation aux extrêmes en France très forte, mais qui est celle qu'on a vue aussi en Israël. En Israël, on a quand même, dans le sein du gouvernement israélien, des orthodoxes rétrogrades qui veulent renvoyer Israël, encore pire qu'au temps de la Bible, dans la pratique religieuse, et deux ministres d'extrême droite qui ouvertement racistes et ouvertement antidémocratiques. Et ça, c'est Israël, qui était quand même une démocratie forte, et pour les 75 dernières années, on espère qu'elle le restera. Et puis d'autres pays en Europe ont basculé avec des traditions démocratiques moins anciennes, mais la Hongrie, la Pologne sont des régimes totalement populistes. Les États-Unis, pendant 4 ans avec Trump, nous ont montré ce que c'était que le populisme extrême, avec même une tentative de renversement des forces politiques au Congrès le 6 janvier 2020, quand des émeutiers ont essayé de rentrer au Congrès. Et puis en France, pour revenir à la France, au-delà des violences urbaines et des pillages et du vandalisme qu'il y a eu depuis quelques jours, qui est absolument scandaleux, les mêmes formes de vandalisme et de violence et d'extrême violence, on les a vécues aussi avec les gilets jaunes, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Ce n'étaient pas des jeunes, ce n'étaient pas des urbains, ce n'étaient pas des habitants des banlieues, c'était plutôt les campagnes. Mais là aussi, on a les mêmes phénomènes d'occupation de la voie publique, de violence contre les forces de l'ordre et même de cassage des magasins. Il faut pas, on a tendance à l'oublier, c'était pas les mêmes, et c'était aussi une violence urbaine, une violence très forte. Et puis pendant les manifestations anti-Covid, on a eu la même chose. Et puis récemment, pendant les manifestations contre les retraites, à chaque fin de manifestation, il y avait des black box avec des profils très étonnants. C'est des gens parfois qui étaient des cadres, des fonctionnaires, des étudiants, des gens qui n'avaient pas forcément de casier judiciaire, qui rentraient dans l'extrême violence. Donc effectivement, on vit dans une société violente où il y a une perte de repères, il y a une perte de direction, il y a un manque de sens politique et de sens éthique et de valeurs morales et républicaines. Et c'est vraiment la responsabilité de nos dirigeants politiques de redonner un souffle, de redonner un objectif, de redonner un cap, de redonner de l'espoir pour que notre République et notre démocratie tiennent. Parce que comme souvent dans l'histoire, c'est dans ces moments-là, comme vous l'avez dit, que tout est possible et qu'on peut basculer vers des extrêmes. Et quand les extrêmes prennent le pouvoir, ils ont tendance à ne pas le lâcher et ils ont tendance surtout à détruire les pays qui se mettent à diriger.
François Helbron, je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.